Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde, à travers des parcours d'expérience, à travers les gens que je peux rencontrer, soit en France, soit à l'international. Donc Regarde ailleurs donne la parole à des photographes, à des reporters. Aujourd'hui avec moi, Sylvain Tesson, écrivain aventurier. Donc j'aimerais bien qu'on revienne peut-être quelques années en arrière sur le premier voyage, ce qui vous donnait envie de partir. Si on revient dans ces années-là, pourquoi avoir la première fois eu envie de franchir nos frontières?
Le premier voyage, mon premier voyage était un voyage à vélo autour du monde en 1993. Il a duré un an. Je suis parti avec Alexandre Poussin, un camarade, et à bicyclette, nous avons traversé une trentaine de pays pendant un an. La raison, je ne l'ai absolument jamais étudié. Il y avait le monde, et il se trouve qu'il est sphérique. Il me semblait tout à fait normal de vouloir en faire le tour.
Et donc à ce moment-là, il y avait un projet derrière, c'était simplement explorer le monde et ses habitants. Il y avait déjà l'écriture qui était avec vous en 93. Quel était l'objectif de ce premier voyage?
C'était sûrement pas d'explorer le monde et ses habitants, c'était une volonté de vivre dans le mouvement, une vie de liberté, de voyage, à travers des paysages le plus dépeuplés possible. Il n'y avait aucun projet d'écriture qui motivait ce départ, mais comme nous avons, Poussin et moi, pris des notes dans nos cahiers tous les jours, il se trouvait qu'à la fin, nous avions le matériau suffisant pour écrire un récit, et par des hasards de circonstances et de rencontres favorables, nous avons écrit un récit de voyage qui s'appelait « On a roulé sur la Terre ».
Suite à quoi, il y a eu un récit de voyage, toujours avec Alexandre Poussin, sur une traversée himalayenne. On a marché dans le ciel ?
C'est ça, la marche dans le ciel, qui était un récit de voyage, et publié chez le même éditeur, Robert Laffont, que nous avons eu la chance de rencontrer dans son très vieil âge, puisque c'était à la toute fin de sa vie. Et ce voyage-là était une marche du Bhoutan jusqu'à l'Afghanistan, par les hauts cols.
Et quand on rentre dans ce bouquin, dans cette aventure, on se rend compte que là, il s'agit plus d'aventure que de voyage.
Et encore faudrait-il définir précisément les mots, car il y a des aventures qui sont des voyages, des aventures qui ne sont pas des voyages, et il y a des voyages qui ne sont pas aventureux, mais il y a des voyages qui sont de pures aventures. C'était les deux, je crois, c'est-à-dire un mouvement, un itinéraire, qui était plus ou moins fortuit, plutôt tout de même déterminé par notre volonté, puisque nous voulions atteindre un point B en partant d'un point A. Le point A, c'était le Bhoutan, le point B, c'était l'Afghanistan. Et c'était de l'aventure parce que il y avait des imprévus permanents, et puis parce que nous les recherchions.
Alors je veux bien effectivement qu'on définisse certains termes. Il y a cette notion du mouvement déjà qui revient beaucoup dans vos écrits. Donc pourquoi, qu'est-ce que c'est que le mouvement et quel est le besoin que l'homme a de se mouvoir?
Je ne sais pas si tous les hommes ont besoin du mouvement. Moi j'en ai besoin parce que c'est grâce à lui que je trouve l'inspiration pour écrire des livres. Je ne suis pas du tout moi un écrivain de l'imagination. Ça ne vient pas du tout à l'esprit d'inventer des histoires et de les raconter. Moi, j'aime voir et raconter ce que j'ai vu. En cela, je suis beaucoup plus un journaliste, d'ailleurs, qu'un écrivain. Je me contente, moi, de peindre, de décrire la réalité des expériences que j'ai vécues, des rencontres que j'ai faites, des paysages que j'ai traversés, et parfois, si jamais ils m'ont plu, des visages avec qui j'ai pu avoir un commerce.
Mais alors, ce qui vous attire en premier dans le voyage, ce sont plutôt les paysages ou les rencontres?
Ce qui m'attire, ce sont les paysages. C'est tout ce qui n'est pas humain, bien entendu. Sinon, je me contenterais d'aimer le reflet de moi-même, quoi. Il y a un tel narcissisme dans l'altruisme, vous comprenez? Autant s'entourer d'un miroir. Alors moi, j'aime aller vers les mondes qui sont intouchés, il y en a plus beaucoup, intouchés par l'homme, ou alors vivre des expériences, des histoires, des métamorphoses parfois, qui proviennent de rencontres avec des éléments qui n'ont rien à voir avec l'humanité, quoi. C'est-à-dire le paysage, la minéralogie, certains phénomènes cosmiques, comme les grands phénomènes climatiques, par exemple. J'aime m'enfoncer dans des étendues impeuplées, ou dépeuplées plus exactement, et j'aime les côtoiements avec parfois les bêtes, les animaux, les végétaux. Et puis l'art aussi, l'art, c'est-à-dire, l'art c'est une trace de l'homme évidemment, c'est la plus belle, c'est la seule d'ailleurs qui ait le moindre intérêt, la seule. C'est la seule qui pourrait peut-être expliquer l'absurdité de notre passage sur Terre et qui pourrait racheter tous les forfaits que notre race commet. Quand je dis race, je veux bien évidemment dire la race des hommes. Je prends évidemment mes précautions d'usage quand j'use de ces termes qui aujourd'hui, grâce au comité de vigilance morale, sont hautement inflammables.
Mais pourquoi vouloir quitter le monde des hommes, ou en tout cas éviter le monde des hommes pour se fondre dans le sauvage? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le sauvage qui vous attire?
Ben moi j'évite le monde des hommes parce que je me connais moi-même. Je sais donc que mes semblables me ressemblant ne valent pas tripette. Donc je préfère côtoyer le silence et les grands espaces. Là par exemple, j'étais hier dans la région niçoise, et j'ai eu la chance de pouvoir faire une escalade sur les parois du Baou de Saint-Janet. Il pleuvait, mais malgré la pluie, j'ai vraiment tenu à grimper sur ces montagnes, et c'était merveilleux parce que je voyais ce littoral niçois qui est tellement extrêmement peuplé, et moi j'étais tout près et sous la pluie et dans le silence, quoi, simplement perturbé par les grondements d'orage. Et je me trouvais très bien. Je pense que c'est une disposition. Il vient un moment dans sa vie, peut-être que ce sera différent demain, peut-être que ce sera différent dans quelques années. Mais là, tout de suite, je me sens d'un penchant pour le silence. Voilà, alors vous me demandez ce que je trouve dans le sauvage. Ben, d'abord, je trouve la beauté, le spectacle de la beauté. La beauté de la nature, quoi. Ses équilibres, ses harmonies, ses agencements, ses ordonnancements parfaits. Qui me plaisent et que l'humanité dans son expansion massive est venue perturber, mais que parfois elle rachète par l'expression artistique.
Et on a l'impression aujourd'hui que cet homme moderne est complètement hermétique à ce langage de la nature où tout va de plus en plus vite et on prend plus forcément le temps d'observer et de contempler.
Oui, enfin l'homme moderne, depuis quand est-il moderne, quoi ? Il est moderne depuis l'époque où il a inventé l'agriculture. De ce moment-là, naissait quand même l'entreprise de conquête, de contrôle, quoi, de la nature. À partir du moment où vous inventez, vous savez faire du feu, vous polissez une pierre et vous plantez une graine, vous rentrez dans l'ère technique, et donc dans l'ère de la rupture, quoi, avec l'allégeance faite avec la nature. Donc je ne sais pas si les hommes aujourd'hui sont plus hermétiques qu'il y a un siècle ou 100 siècles avec la nature, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est qu'on est plus nombreux. Alors ça change toute la donne.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sylvain, dans vos ouvrages, au-delà du voyage, il y a un côté performance, où vous allez vite, où vous vivez des aventures qui sont hors du commun. Est-ce qu'il y a ce besoin de franchir des limites, de sortir de sa zone de confort et de toujours essayer de challenger pour essayer de vivre des choses extrêmes? Est-ce qu'il y a ce besoin de performance dans votre manière de vous mouvoir?
Oui, la mise à l'épreuve est nécessaire, oui, bien sûr. Pourquoi, j'en sais rien, moi ça me paraît tellement ordinaire et logique. On a toujours quand même envie de vivre des choses dont on s'estime pas tout à fait capable. Ça s'appelle, on se lance une sorte de pari fait à soi-même. C'est un jeu, c'est un jeu. Je dois être joueur, sauf que je ne vais pas dans les casinos. Je me prends pour ma propre roulette. Ça s'appelle la roulette russe. Mais sauf que moi, je la joue de manière beaucoup plus... beaucoup moins sanguinaire qu'avec un pistolet à six coups chargé d'une seule munition.
Vous avez commencé à voyager, donc on parlait d'un tour du monde en vélo. Donc là, vous aviez quel âge à cette époque?
À la bicyclette, j'avais 20 ans, 21 ans.
Et depuis, le mouvement vous habite de la même manière? Vous continuez à voyager très régulièrement?
Oui, oui, bien sûr. Depuis, je ne me suis pas arrêté. C'est d'ailleurs une maladie, hein. C'est peut-être une sorte de toupie infernale qui ne s'arrête pas. C'est la roue du hamster, hein. Le mouvement perpétuel, quoi. C'est pas très bénéfique, finalement.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il y a une forme d'emballement et de mouvement inarrêtable qui comporte sa propre stérilité. Quand on est embarqué comme ça dans un mouvement perpétuel, comme dans une valse folle, elle devient une valse triste, puisque seul le mouvement peut guérir le mouvement, alors ça devient une surenchère du mouvement, et rien ne se fixe, on ne fabrique ni ne fonde rien quand on ne fait qu'être en mouvement. Or, paradoxalement, moi, ce que je respecte le plus au monde et ce que j'admire le plus, c'est toutes les formes de fixité que l'humanité a réussi à opérer. L'architecture, les cultures, les civilisations très profondes, les très vieilles histoires, les grandes durées dynastiques, les généalogies, les enracinements dans le passé, l'agriculture. Tout ça, c'est ça qui a mon admiration. Mais n'en étant pas capable, moi j'ai décidé d'être du côté du plancton au lieu d'être du côté des bâtisseurs de cathédrales. C'est un malheur, mais au moins suis-je lucide. La lucidité n'est pas un remède, mais au moins est-elle un regard que vous portez sur vous-même.
Mais dans cette notion de mouvement, il y a aussi eu des voyages plus immobiles. Je pense à l'immersion dans le sauvage en Sibérie.
Oui, mais ce sont des immobilités de façade. J'ai fait référence à un voyage, enfin à un séjour que j'ai fait dans une cabane en Sibérie au bord d'un lac, au bord du lac Baïkal, où je suis resté 6 mois. D'abord, ça n'était que 6 mois. Et puis, en plus de ça, cette cabane était devenue un refuge duquel je partais tous les jours pour rayonner en étoile autour de mon petit domaine et aller épuiser ma fièvre de mouvement dans des randonnées épuisantes sur les sommets qui environnaient ma cabane. Donc oui, c'était le jeu, la mise en scène d'une apparente immobilité que j'ai appelée un ermitage. Mais enfin, je suis ermite comme je suis pape, c'est-à-dire du bout des lèvres.
Bon, on va revenir au terme, aux définitions des mots. Qu'est-ce que c'est pour vous aujourd'hui un voyage ou voyager? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il se cache derrière ce mot?
Je pense que jamais autant qu'aujourd'hui, la nécessité de mettre en œuvre son imagination n'a été requise par l'envie de voyager. Parce que la planète se peuple de plus en plus, les zones finalement de naturelles et sauvages se rétrécissent, et l'homme, pour vivre des aventures qui parlent à son cœur, à son esprit, à sa nostalgie, doit maintenant imaginer des parcours, des itinéraires ou des aventures.
Et j'observe une différence énorme où aujourd'hui tout a été découvert. Quel est le sens du voyage aujourd'hui? En plus, on est de plus en plus en train de culpabiliser celui qui voyage parce qu'il prend un avion, parce qu'on parle de bilan carbone. Et qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ce sentiment de culpabilité que ressentent les voyageurs modernes?
Je n'ai strictement rien à dire sur le sentiment de culpabilité. Je ne suis pas un ecclésiastique, je ne suis pas un curé, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un militant écologique, tout ça est la même chose. Je n'ai pas fait d'études de théologie, je n'ai pas suffisamment de narcissisme et d'amour de moi-même pour pouvoir me ranger du côté des imprécateurs qui lancent des anathèmes. Je crois, moi, à la pensée de Rainer Maria Rilke, qui disait que si on veut se satisfaire du monde, il faut d'abord changer son propre regard sur le monde. je suis pour la réforme accomplie sur soi-même avant le militantisme pour les autres. Et je me méfie beaucoup de toutes les grandes théories de systèmes de changement, surtout quand elles sont brandies et exprimées par des êtres qui ont oublié de se réformer eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Maintenant, moi, je crois qu'il n'y a pas que des êtres qui culpabilisent, il y en a aussi qui continuent à aimer la poésie et les arts et la beauté, et à prendre du temps pour continuer à s'en imprégner. Et voilà, je crois que la grande différence du voyage aujourd'hui et du voyage il y a 100 ans ou 150 ans, c'est qu'une planète d'un milliard d'habitants et une planète de 8 milliards d'habitants n'est pas la même. Elle a changé, la Terre a changé de peau, le monde s'est rétréci. Et maintenant, quand on voyage, il faut dire pardon parce qu'on bouscule tout le monde. C'était pas pareil à une époque où on pouvait partir dans des endroits où il n'y avait pas un être humain à des milliers de kilomètres à la ronde. Voilà, je crois que ça, c'est ça la grande rupture et la grande inédite révolution. Alors, comment faire? Eh bien, il faut imaginer des moyens, d'autres voyages, d'autres considérations du monde, d'autres regards sur le monde. Je crois que la littérature, elle, n'est absolument pas morte. Peu importe qu'on regarde la même chose et qu'on retourne toujours au même endroit, du moment qu'on le dise autrement.
Qu'est-ce que vous voudriez dire à un de vos lecteurs, un jeune lecteur qui découvre les bouquins de Sylvain Tesson et qui est lui aussi cette âme d'aventurier, qui a lui aussi envie de partir à la découverte du monde?
Mais rien d'autre que ce que j'ai écrit dans mes livres. Alors tout ce que je pourrais lui dire ressemblerait exactement à ce que péniblement je mets des années à essayer d'écrire et que je ne peux faire que dire plus mal en essayant de le redire. Mais tout ce que je pourrais lui dire est marqué dans mes livres. Et j'ai beaucoup de mal à les écrire. Je mets des années à écrire mes livres, ils sont de plus en plus petits parce que j'ai de plus en plus de mal à écrire. Donc je ne vois pas très bien ce que je pourrais ajouter. Ce serait une mauvaise paraphrase de ce que je dis. Or, ce que je dis est très banal. Je dis émerveillez-vous, partez, marchez, et allez lire de la poésie dans les bois. Tu parles d'un scoop, et je ne sais pas pourquoi on me lit, mais j'en suis très content.
Le mouvement fait quelque part partie du rêve de l'humanité. De tout temps, on a eu besoin d'aller voir le village d'à côté, la vallée d'à côté, de franchir pour observer ce qu'il s'y passe. Est-ce qu'on continuera à voyager dans les années à venir?
Je ne sais pas. Je n'ai absolument pas de possibilité de réflexion, d'analyse et de prospective pour répondre à des questions pareilles. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas si on a toujours voulu aller voir de l'autre côté du monde. Il y a eu des cultures qui n'avaient absolument pas envie d'aller se frotter aux autres cultures. Et Dieu merci d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'elles sont restées dans l'intégrité de leurs différences. Et puis, par exemple, il y a eu des endroits du monde dont les accès étaient interdits. Je pense au sommet des montagnes. C'est très récent, la volonté d'aller les conquérir. On a longtemps, pendant des millénaires, pensé que c'était l'autel des dieux et le siège des divinités et qu'il était tout à fait interdit de se porter jusqu'aux éminences des reliefs et jusqu'au sommet des montagnes. Donc je crois que le phénomène de la volonté de circulation et de, comment on appelle ça, la rencontre avec l'autre, c'est quelque chose de plutôt récent. Non, je crois qu'on a toujours eu envie de commercer, ça c'est vrai, et de faire la guerre. C'est qui est le plus vieux métier de l'homme. Mais ça oui, l'échange des produits et des coûts. Et voilà, ça c'est au fond de l'homme. Au fond de l'homme. L'homme a envie tout de même d'aller mettre le feu au village d'à côté pour se l'accaparer. Voilà, ça je crois qu'on n'est pas trop dans l'erreur en pensant à cet invariant-là. Mais alors la rencontre avec l'autre et l'enrichissement par le dialogue, il me semble que vous faites là allusion à une extrême minorité de gens modernes qui tout à coup ont les moyens intérieurs, intellectuels, spirituels, anthropologiques, d'imaginer qu'ils vont trouver un quelconque intérêt à rencontrer les autres. Moi j'en fais partie, mais je crois que c'est très récent tout ça. C'est même pas qu'on est moderne, on est post-moderne.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sylvain, dans vos aventures, dans vos voyages, comment les idées vous viennent? Comment vous choisissez de partir en vélo, à pied, traverser la France, s'immerger dans une cabane en Sibérie? Comment vous viennent ces idées?
Ben, si on savait comment venaient les idées, on aurait tout le temps des idées, tout le monde aurait des idées, il y aurait des recettes pour avoir des idées. Par définition, une idée, ça vous arrive comme ça, sans que vous sachiez très bien pourquoi. À chaque fois que moi je fais un voyage, j'ai l'idée me vient du voyage d'après. Ça, c'est vrai. Souvent par un phénomène d'ailleurs de contradiction. J'ai envie de partir dans un écosystème, dans un milieu, dans un climat qui est aux antipodes et au rebours absolu du milieu dans lequel je me trouve. J'ai envie de vivre un voyage à Colmar quand je me trouve à Brest et en Bretagne quand je me trouve en Alsace. Par exemple, il y a ce phénomène de l'esprit de contradiction appliqué à soi-même. Et puis... parfois c'est au gré des lectures aussi, c'est parce que je lis quelque chose qui me plaît beaucoup sur la Russie, ou sur l'épopée napoléonienne, ou sur un livre sur les grandes évasions, que tout à coup me vient l'envie de vivre, de bâtir un itinéraire qui a rapport avec une thématique que j'ai rencontrée ou une notion que j'ai étudiée.
Sylvain, est-ce que vous connaissez l'ennui? Est-ce que vous vous ennuyez quelquefois, peut-être à retour de voyage ou...
Oui, parfois le temps passe très lentement, oui, je m'ennuie. Pas l'ennui, on s'ennuie souvent, oui. Un mauvais livre, ça arrive. Souvent, on s'ennuie avec soi. Ou alors quand on n'a pas de livre et qu'on est seul avec soi-même. Oui, très souvent. Sur ma moto, parfois, je m'ennuie. Je ne mets pas d'écouteurs, là. Je suis devenu complètement sourd. Et alors, quand je fais de la motocyclette, je m'ennuie, oui. Mais en même temps, bah, quand je m'ennuie, j'accélère. Parce que comme ça, motocyclette, on va très très vite, on est concentré pour pas tomber, et puis pour pas se faire attraper par la marée chaussée. Alors ça permet de moins s'ennuyer.
Il y avait ce philosophe, Pierre Rabhi, qui parlait beaucoup de sobriété, de cette fameuse légende du colibri, où on voit le colibri qui s'agite avec sa goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie qu'il observe de l'autre côté de la rivière. Cet incendie, aujourd'hui, on pourrait y voir dans ses flammes différentes choses, une crise sanitaire, une crise écologique, une crise de sens. Sylvain, si vous deviez faire votre part, et dans ce feu, qu'est-ce qui brûle? Qu'est-ce que vous observez dans ce feu qui brûle? Et quelle est la part que vous aimeriez y apporter, la goutte d'eau, pour essayer de ralentir l'incendie?
Moi, je ne crois absolument pas à la théorie du colibri. Je crois l'exact contraire. Je la trouve merveilleuse, elle m'intéresse. Je lisais Pierre Rabhi, je lisais ses livres, je trouvais charmante la fable du colibri, mais le colibrisme, si on peut inventer ce terme comme théorie morale et politique, c'est une notion qui m'est complètement étrangère. Moi, je crois l'exact contraire, c'est-à-dire je crois que les solutions aux malheurs du monde viennent des grands génies de ce monde. Voilà, j'oppose moi à la théorie des colibris la superbe discours de Winston Churchill en 1941, quand après la bataille d'Angleterre, il a fait un discours pour remercier les 500 pilotes de la Royal Air Force qui avaient sauvé l'Angleterre grâce à leur sacrifice. Et il a dit une phrase qui est l'exact contraire et contradiction de la théorie des colibris. Il a dit « Never so much was owed by so many to so few ». Jamais autant de choses n'a été dû par un si grand nombre de gens à si peu. Voilà, 500 personnes ont sauvé une nation de millions d'habitants. Voilà, moi j'aime mieux cette idée-là parce que je m'intéresse aux grandes figures de l'histoire, quoi. Alors après, ça n'empêche pas d'essayer de gouverner sa barque intérieure et personnelle comme on peut. Mais j'aurais jamais ni la naïveté, j'espère, ni surtout la vanité de croire que ma goutte éteindra l'incendie.
J'ai retenu, pour terminer, quelques citations. J'aimerais juste que vous reveniez sur certaines d'entre elles. La France est un paradis rempli de gens qui se croient en enfer.
Oui, cette phrase mérite des explications parce qu'elle m'a valu beaucoup de critiques. Elle semble une phrase tombée de la bouche d'un grand bourgeois qui ne se rend pas compte combien il y a des Français qui sont à la peine. C'est évidemment pas sur le terrain social que j'ai exprimé cette phrase. Je voulais dire que dans notre position sur la carte du monde, la France qui échappe à la guerre, qui échappe aux grandes catastrophes climatiques et aux grandes catastrophes épidémiques également. Il n'y a pas de malaria dans notre pays, par exemple. Et qui échappe à un certain désordre de violence, était un paradis, oui, absolument, à proportion en tout cas des nations que j'avais pu visiter. Mais que n'avais-je pas dit ? Je me serais bien gardé, je me garderais bien de la prononcer, je préfère pas la commenter d'ailleurs.
Tant qu'il y aura des cabanes au fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.
C'est-à-dire qu'on est très content d'avoir une consolation par l'idée qu'on se fait que nous avons des refuges. Ils peuvent être physiques, ils peuvent être moraux, ils peuvent être spirituels. C'est le recours aux forêts de Ernst Jünger, c'est-à-dire l'idée qu'on peut parfois rejoindre sa citadelle intérieure. Alors elle peut être matérialisée par une petite cabane dans un bois bien précis, mais ça peut être aussi un cabinet de lecture, ou ça peut être le visage d'une femme qu'on aime et un cœur qui nous est ouvert. Ça peut être ça, la forêt à laquelle on a recours.
La Terre avait été un musée sublime. Par malheur, l'homme n'était pas conservateur.
Non, l'homme n'avait pas été assez conservateur, c'est ça que j'ai dit. Il y a le « assez ». Nous n'avons jamais été assez conservateurs. Bien sûr, moi je crois que l'écologie est avant tout une conservation, et moi je milite pour une écologie totale, c'est-à-dire une conservation des arts autant que des bêtes, des lettres autant que des plantes, de la langue autant que de l'écosystème, et des cultures autant que de la nature.
Je suis le produit d'une époque que je déteste. Qu'est-ce que vous détestez dans notre époque ?
L'asservissement technique, quoi. Cette espèce d'extase, de contrat de soumission totale que nous avons fait signer une reddition dans le wagon de rotonde à la guerre technique, quoi. Nous sommes les esclaves des machines, nous ne pensons qu'à ça. Nous sommes agenouillés devant la force de la technique, de la matière, des choses, des objets. Et tout ça au profit de... Certainement, nous y avons gagné en confort, ça c'est sûr. Mais nous y avons perdu en charme, en liberté, en douceur peut-être, de vivre. Et voilà, j'abomine absolument par tous les pores de ma peau cette époque. Et je n'y trouve rien d'exaltant. Alors, moi, je continue à vivre très gaiement et très joyeusement, parce que je trouve que c'est la bonne humeur est une politesse. C'est la première des politesses. Et la soumission, quoi, l'allégeance faite à toute forme de technique me révulse. Je crois que rien ne sort de beau de la conversation d'un homme avec une machine. Alors, je déteste les machines. Voilà, tout en assumant très bien ma contradiction, parce que j'en use toute la journée, je prends des chemins de fer, je circule sur des motocyclettes et juge de stylographes qui me permettent de vivre ma vie, bien sûr. Mais c'est pas... Moi, j'ai bien fait mon procès, mais je me sens pas du tout heureux dans cette époque. Et je crois que nous n'en avons pas fini de nous déculoter devant les machines. Ce n'est qu'un début.
Donc est-ce qu'on peut parler d'asservissement de l'homme face aux machines et face au progrès ?
Oui, ben voilà, c'est exactement les termes que j'aurais dû employer. C'est l'asservissement de l'homme face aux machines. Exactement. Avec une espèce d'extase et au détriment d'une préoccupation qui était la préoccupation majeure des gouvernants, d'ailleurs. Jusqu'à des siècles assez récents, et jusqu'à un siècle peut-être assez récent, et qui était la beauté de la forme qu'on voulait donner au monde. Voilà, cette préoccupation a tout à fait disparu des préoccupations, c'est assez fascinant. si jamais un jour on étudie l'histoire que nous avons vécue là depuis peut-être 5 ou 6 décennies, quand on l'étudiera dans les siècles qui viendront, les historiens seront fascinés par cette production de laideur et de hideur partout à la surface de la planète.
De plus en plus, on donne la parole aux peuples racines, aux peuples premiers qui, eux, nous parlent encore d'un langage avec la nature, d'un lien, cette notion de compréhension du monde dans lequel on vit, une sorte de retour à l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez de ce message-là qu'on peut entendre par, je sais pas, je pense aux Raoni ou les grands leaders politiques de ces peuples autochtones?
Mais on peut rien, 8 milliards d'êtres humains ne peuvent rien entendre d'un peuple qui doit sa prospérité, son génie de concordance avec son écosystème et qui le doit à son très faible effectif. Une fourmi n'a rien à dire à la fourmilière, rien. On peut s'en extasier, on peut trouver ça ethnologiquement parfait, esthétiquement superbe, d'une grande noblesse. Mais que voulez-vous que des systèmes de milliards d'êtres humains qui veulent acquérir une prospérité, une commodité technique, aient à faire de ce que vous appelez le message d'un peuple premier? C'est une impossibilité structurelle, philosophique. Un système, quand il change de volume, change de nature. Donc on ne peut pas les entendre, on les entend comme des agréables animateurs du divertissement. Ils nous disent quelque chose qui est très agréable à entendre, et puis on a plaisir à entendre Raoni, comme on a plaisir d'aller au musée, au cinéma ou au théâtre, voir un spectacle. Mais ça s'arrête là. Qu'est-ce que vous croyez que ça va changer?
Est-ce qu'on est dans une impasse?
Non, parce que les dinosaures n'étaient pas dans une impasse, ils ont disparu. C'est pas une impasse, la disparition, c'est le recommencement de quelque chose.
Sylvain Tesson, merci. Merci beaucoup.
Merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.